Bonjour à tous. Ce matin, donc, je vais continuer la prédication sur Jean 6 que Daniel avait apporté il y a près de 3 semaines maintenant, je pense. Donc, je vais prêcher sur les versets 41 à 58. Alors, je vous propose de les lire. On va les lire ensemble. Et je vous demanderai d'être attentif aux mots qui reviennent le plus souvent. Je vous demanderai à la fin quel est, à votre avis, le mot qui est au centre de ce passage. C'est pas obligé qu'on ait tous le même, mais je pense que c'est intéressant de voir comment le Seigneur veut nous enseigner. Alors, en fait, je vais commencer à partir du verset 37, José, excuse-moi. Donc Jean 6, verset 37, et je vais lire jusqu'au verset 59. Donc Jean 6, 37. Je lis dans la version du semeur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel. Si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour accomplir ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit « C'est moi qui suis le pain qui descendu du ciel ». Il disait « Voyons, mais n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre être descendu du ciel ?» Jésus leur dit « Cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole « Dieu les instruira tous ». Tout homme qui écoute la voix du Père et qui se laisse instruire par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Mais comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Alors, quel est, à votre avis, le mot ou les mots qui reviennent le plus dans ce passage ou qui vous paraissent être au centre de ce passage? Qu'est-ce que vous diriez? Alors le pain, manger, moi, quand Jésus parle, ouais, moi. Le Père et moi, ouais. La vie, ouais. La vie, la vie. Alors vous voyez, on entend tous des choses différentes, C'est vrai que quand j'ai lu ce passage, effectivement, pour moi, c'est la vie qui m'a impacté. Je n'ai pas compté combien de fois le mot vie, vivra est mentionné, mais je pense que oui, effectivement, cette vie est ce que Jésus veut nous transmettre dans ce passage. Alors, vous vous rappelez peut-être ce dont Daniel avait parlé il y a 3 semaines, 1 mois, donc où il avait déjà parlé de ce pain de vie. Et la question qu'il vous avait posée, alors je dis vous parce que moi je n'étais pas là, j'étais à l'inauguration de l'église unie de grâce. Bon. Donc il vous avait demandé, est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu as faim de ce pain ? Et Michel, ce qu'il nous a partagé ce matin, la faim des Israélites dans le désert, donc ça fait aussi référence à cette dimension-là, la faim que nous pouvons avoir de ce que Dieu nous donne, la faim de sa parole. Et il avait abordé ce pain de vie sous cet angle-là. Vous vous rappelez peut-être des cacahuètes, d'accord, hein, il y a des images qui marquent, les cacahuètes qui donnent soif, et le fait que le dimanche matin, on est là pour se mettre en appétit, voilà, ouais, c'est ça, pour se nourrir vraiment de ce que Dieu a à nous donner. Vous vous rappelez aussi peut-être de Ludovic qui était venu prêcher ici et qui nous avait posé lui aussi une question et qui nous avait demandé donc, mais où est Jésus ? Vous vous rappelez peut-être de ça ? C'est des questions comme ça qui, peut-être des choses, des questions simples comme ça qui nous accompagnent aussi pendant la semaine. Et moi aussi, à la suite de ça, je me suis demandé pendant ma semaine, mais alors où est Jésus dans ma vie aujourd'hui ? Et Daniel donc m'avait dit voilà tu vas prendre la suite, et il m'avait vendu ce passage là en me disant bon tu vas voir ce passage là ça parle de la scène, alors bon la scène, l'Eucharistie, tout ça c'est pas forcément ça qui est super intéressant, mais tu vas voir tu vas pouvoir rebondir sur la communion qu'il y a dans l'Église. Et c'est vrai, la scène ça parle de communion et moi en lisant ce passage j'ai bien cherché, mais c'est pas de communion que pour moi ce passage a parlé. Donc je vais pas vous parler de la, alors d'ailleurs ni vraiment de la scène ni vraiment de la communion qu'on peut vivre dans l'Église. Alors premièrement parce que effectivement c'est pas ça qui m'a parlé dans ce passage là et d'autre part aussi parce que c'est vrai que la dimension de la communion dans l'Église, je pense que c'est vrai que ces 2 dernières semaines, on a pu les vivre d'une façon particulière qui finalement se passe presque de message. On a pu vivre la communion avec l'équipe de GLO qui était là, tout l'accompagnement qu'on a pu vivre avec eux, les repas qu'on a partagés. Et puis le mariage de Manon et Thomas hier, où bon, on a vécu vraiment, enfin bon, oui c'est vrai, un moment de communion, de partage, d'amour qui était quelque chose de beau, et c'est vraiment une grâce que le Seigneur nous fait de vivre ça dans l'Église, et c'est vrai, je pense que oui, ça vient de lui et c'est vraiment une grâce. Alors dans ce passage, c'est vrai que la vie est centrale, et du coup je me suis posé la question, mais alors cette vie dont nous parle Jésus, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est que la vie dont nous parle Jésus ? Alors c'est vrai que c'est une question qui peut paraître un peu théorique, un peu une grande question comme ça, qui est un peu déconnectée de notre vie de tous les jours. En même temps, dans ma vie, je me rends compte que ce genre de questions, ça permet de s'arrêter parfois. Ça permet de se poser et puis de regarder les choses avec un peu plus de recul. C'est pas forcément une question qui va m'aider dans ma vie, on va dire, de tous les jours pour régler les problèmes que je peux que je peux rencontrer, mais c'est une question qui peut éclairer mon chemin, qui peut me montrer où je suis et ce que je suis, et qui me permet de trouver la direction. Alors, je vais le commencement de ce passage. Jésus nous parle, donc je parle à partir du verset 41. Jésus nous dit, voilà, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. D'habitude, on voit plutôt Jésus comme celui qui amène au Père, comme celui qui conduit vers le Père. Et c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, là, Jésus nous le dit. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, à chaque fois, le parallèle que Jésus fait, il le répète 4 fois au moins dans ce passage-là. Le Père vous attire à moi, et moi, au dernier jour, je vous ressusciterai. Jésus nous conduit vers le Père, dans une relation au Père que nous ne pouvons pas avoir sans lui. Et pourtant, dans ce passage commence en nous disant « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Si le Père ne l'attire. Et alors, je me suis demandé, mais comment le Père nous attire vers Jésus? Et là, on rejoint en fait la question de qu'est-ce que la vie? Parce que je pense que le Père nous instruit, le Père nous montre qui nous sommes, et il nous montre ce qui nous manque. Il nous montre que nous sommes, et la parole le dit comme ça, que nous sommes morts. Et cette mort, la façon qui m'a paru la plus juste d'en parler ce matin, c'était de parler de la solitude. Vous allez voir pourquoi après, quand je vais essayer de dire ce que je comprends de cette vie que Dieu, que Jésus nous donne. Mais cette solitude, quand on est face à la création, face à quand on lève les yeux vers les étoiles et qu'on contemple l'immensité de l'univers, le sentiment qui d'abord nous étreint, c'est peut-être celui de notre petitesse, celui de notre... oui, c'est ça, du fait qu'on soit si petit devant cette création tellement immense. Quand on regarde la complexité de la vie qui est autour de nous, là aussi, on se rend compte de notre incapacité à la comprendre et à la maîtriser. Et au bout du compte, ça nous renvoie vers nous-mêmes. Ça nous renvoie vers le fait que nous sommes coupés de cette création, coupés de la compréhension qu'on peut en avoir. Quand on se plonge aussi en nous-mêmes et qu'on se demande qui on connaît et de qui on est connu, on se rend compte que là aussi, on est seul. Je pense que c'est quelque chose qui vient avec peut-être avec l'âge, de se rendre compte que finalement, ceux dont on pensait qu'ils nous comprenaient, qu'ils nous connaissaient, on se rend compte au fur et à mesure de notre vie qu'en fait, non. En fait, au début, évidemment, dans notre vie, on pense que nos parents nous connaissent, que nos parents nous comprennent. Et quand on grandit, on se rend compte à un moment donné que finalement, non, nos parents, alors évidemment, à l'adolescence, on se rend compte que nos parents ne comprennent strictement rien, d'accord, et que nous connaissent absolument pas. Et c'est le premier choc de se rendre compte que ceux dont on pensait qu'ils étaient si proches, finalement, ne le sont pas tant que ça. Dans les relations d'amitié, là aussi, dont les personnes dont on peut penser qu'elles sont proches et qu'elles nous comprennent et qu'elles nous connaissent, un moment vient où on se rend compte que finalement non, elles ne comprennent pas ce que nous sommes vraiment et elles ne nous connaissent pas. Donc même dans le mariage et dans la relation de couple, là aussi, dont on peut être amené à penser que la fusion est tellement parfaite qu'on se connaît vraiment, et vient un moment donné où on se rend compte que non, on n'arrive quand même pas à comprendre son conjoint, et il nous reste étranger. Et notre condition humaine, c'est celle-là, c'est d'être étranger dans ce monde, étranger les uns aux autres, seul, et c'est cette solitude cette séparation d'avec Dieu, cette séparation d'avec les hommes, cette séparation qui est la mort. Et le fait de comprendre ça et de s'en rendre compte nous amène vers celui qui peut nous redonner, qui peut nous donner d'être connu. Et cette vie que Jésus va apporter dans le monde, c'est la fin de notre solitude. Vous savez que l'homme n'est pas fait pour être seul. Dieu, notre Créateur, ne nous a pas fait pour qu'on soit seul. Je crois que dans notre cœur, dans notre être, il y a cette force qui nous pousse à rompre cette solitude. Le monde propose plein de façons d'être moins seul. On est c'est une banalité ce que je vais dire, mais on est dans un monde de plus en plus connecté, hein, où les messages nous arrivent de façon instantanée et où on est joignable en permanence. Et malgré tout, le sentiment de solitude n'a jamais été aussi fort. On n'est pas fait pour être seul. Et on cherche à retrouver, à trouver quelqu'un qui nous connaisse, quelqu'un qui soit avec nous. Et Jésus vient et il dit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Et la vie, alors cette vie, qu'est-ce que c'est la vie ? Moi, je suis, ma formation, c'est d'être alors, je suis pas biologiste, ni même chimiste. Je suis plutôt, j'ai plutôt fait de la physique. Mais je pense qu'on a tous fait, au cours de nos études, on a tous étudié à un moment ou à un autre, au moins, ce que c'était qu'une cellule et comment est-ce que ça vit une cellule. Alors, pour autant que je sache, les hommes n'ont jamais réussi à recréer la vie. C'est un phénomène qui est extrêmement complexe, et on a réussi à la modifier, à la tripatouiller, etc., mais à la créer de rien, on n'a jamais réussi. Et la vie, c'est d'abord une cellule, elle est vivante parce qu'elle échange, parce qu'elle transforme. Elle a besoin d'énergie, elle a besoin d'avoir des nutriments qui viennent de l'extérieur, elle va les transformer, les renvoyer, prendre de l'extérieur, en renvoyer. La vie, c'est d'abord un échange. C'est d'abord d'arriver à prendre ce qui est à l'extérieur et le transformer. La vie sur Terre, hein, c'est... vous avez peut-être entendu parler du cycle du carbone. Hein, c'est le soleil qui est la source de l'énergie sur la Terre. Bon, et cette énergie, elle va transiter en passant d'organismes de plus en plus complexes et à être transformé par des molécules de carbone qui vont être transformées et qui petit à petit aboutissent à des organismes plus complexes. Et la vie va transformer et passer de l'un à l'autre l'énergie que le soleil transmet. Notre vie, c'est la même chose. C'est aussi un échange, c'est aussi une transformation, et c'est pour ça que je parlais de la mort, qui est d'abord une solitude. Si vous coupez un organisme de ce qui l'entoure, c'est sûr que cet organisme va mourir, parce qu'il n'est pas fait, il est pas fait pour vivre de façon isolée. Il n'y arrivera pas, et il va simplement mourir. Jésus nous dit, voilà, je suis le pain de vie, et je suis vraiment une nourriture, je suis vraiment un breuvage. Le pain et le vin, Le pain qui nous apporte, qui apporte de l'énergie à notre corps dont nous avons besoin pour, pour fonctionner. L'eau qui est un élément aussi nécessaire à la vie. Vous savez à quoi sert l'eau dans votre organisme, hein. Je ne suis pas non plus ni médecin, mais l'eau sert à nous purifier. Notre organisme produit des toxines, des déchets dont il faut se débarrasser si on veut continuer à vivre. Si on les garde en nous, on meurt. Là aussi, très simplement. Et vous savez que sans eau, un humain vit à peu près 3 jours. Hein. Sans manger, il vit une quarantaine de jours. Et ensuite, sa vie s'arrête. Jésus vient nous apporter ce dont nous avons besoin. Vous vous rappelez peut-être que Daniel a parlé à un moment donné d'un de ses amis qui lui disait « Mais oui, alors je comprends que ta relation à Dieu, c'est un centre, enfin alors je ne sais plus comment il a dit ça, un centre d'intérêt, une passion, quelque chose. » Et Daniel lui disait « Mais non, tu ne comprends pas, ce n'est pas une passion, ce n'est pas un centre d'intérêt. Une passion, c'est la moto ou autre chose. Ma relation à Dieu, c'est mon pain et mon eau. Si je n'ai pas ça, je meurs. » Ça ne se situe pas du tout au même niveau, ça ne se situe pas au niveau de la cerise sur le gâteau. Ça se situe au niveau de ce dont j'ai besoin de façon intrinsèque. Parce que sans ça, je meurs. Jésus nous dit, je suis le pain de vie, le pain qui donne la vie au monde. Le pain, alors je le lis dans le texte, hein, le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Ce pain que Jésus donne, c'est son propre corps. Et on voit que les hommes qui étaient autour de lui ne comprennent rien à ce dont Jésus parle. Quand il dit qu'il descend du ciel, ils disent « Mais descend du ciel, je connais ton père et ta mère, de quoi tu parles ?» Quand il dit « Je vais donner mon propre corps à manger », ils disent « Mais où, comment ? Qui peut manger le corps de quelqu'un d'autre ?» Ils sont complètement à côté de ce dont Jésus parle. Et c'est pour ça que nous aussi, quand nous nous approchons de ce texte-là, on est obligé de se poser, de quitter un peu nos préoccupations quotidiennes, de se demander de quoi, enfin, qu'est-ce qu'on va manger à midi et si on aura suffisamment sur le compte en banque à la fin du mois. Il nous faut nous arrêter et nous demander de quoi Jésus veut nous parler et où il veut nous emmener. Mon propre corps qui est donné pour vous. On sait bien ce qui va se passer quelques années après que Jésus ait dit cela. Son propre corps, il va le donner sur la croix pour nous. Le fait de donner son corps, ça veut dire pour lui les souffrances. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a donné son corps pour nous ? Là aussi, Jésus nous répond dans l'évangile de Jean. Il a donné sa vie pour nous par amour. Et c'est là qu'on rencontre l'élément qui nous nourrit, qui nous donne notre énergie et nous permet de vivre. Nous sommes aimés de Dieu, aimés au point qu'il a donné sa vie pour nous. C'est ça qui nous donne notre identité, qui fait que plus jamais je ne serai seul. Parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. Et Dieu est venu habiter en moi. Je ne serai plus jamais seul. La nécessité de plus être seul, je peux donner un petit mot de témoignage là-dessus. Moi, je me suis converti, j'étais assez jeune, parce que Dieu m'a montré, ah oui, quand j'avais 10 ans, que oui, j'étais seul. Mon père est mort à cet âge-là. Et je pense que j'ai peut-être jamais vraiment réussi à mettre qu'est-ce qui m'avait finalement poussé vers Dieu au moment où cet événement-là est arrivé dans ma vie. Mais je pense que au bout du compte, c'était bien ça. On croit être accompagné et à un moment donné, on se rend compte que non. On se rend compte qu'on est seul et qu'on a besoin que quelqu'un soit avec nous. Et alors le Christ vient et nous dit, voilà, je donne ma vie pour toi et je te donne ma vie. Au verset 58, Jésus nous dit, c'est au verset 57, le Père a la vie en lui-même. Le Père a la vie en lui-même. Cette vie, je l'ai en moi et je vous la donne. Le fait d'être enfin reconnecté, enfin connu, enfin en relation, enfin être une partie de cet échange, de la même façon que la vie d'un corps, que la vie de n'importe quel être vivant, c'est un flux, c'est de l'énergie qui entre, qui est transformée et qui continue d'être partie de cet échange, d'être enfin en relation, enfin être en relation avec celui qui m'a créé. Et Jésus nous dit, parce que vous êtes en relation avec moi, j'apporte la paix dans votre relation avec tous les autres. Je suis connu de Dieu et je ne suis plus jamais seul. Je ne vous connais pas encore comme Dieu vous connaît. Notre monde est encore soumis à la séparation. Et pourtant, Dieu nous promet que devant nous, cette barrière sera enlevée, que la mort sera vaincue de façon définitive. Et ce passage, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais mentionne 4 fois la résurrection. Il nous parle de notre vie présente. Je vous ai donné la vie aujourd'hui. Vous êtes vivant maintenant. Vous êtes en relation avec moi. La vie qui est dans le Père coule jusqu'en vous. Comme un torrent d'eau vive. Hein. Vous connaissez ce passage. Cette vie coule en vous et rejaillit jusque vers l'extérieur. C'est ce que vous pouvez vivre dès à présent. Et la résurrection vient. Et c'est vrai que dans le monde, c'est une folie hein, de parler de ça. Moi, je sais que j'ai du mal de parler de l'espérance d'une vie nouvelle, d'un monde nouveau. Ça paraît complètement fou. Et le Christ nous montre que cette vie présente trouve son accomplissement dans la nouvelle création que nous allons vivre. Ça fait partie de notre espérance la plus, je veux dire, la plus profonde. Et il faut qu'on et je le dis pour moi, il faut s'attacher à ça et regarder au-delà de ce que notre monde matérialiste peut penser de ce genre d'espérance. La résurrection, c'est le moment où la réalité spirituelle va prendre va prédominer sur la réalité physique. Actuellement, la seule façon que nous avons d'être en relation, en contact avec cette vie que Dieu nous donne, c'est la foi. C'est la foi qui nous permet de la vivre et de la toucher. Cette espérance vers ce qu'on ne voit pas, cette assurance. Mais notre vie reste soumise à notre condition, à notre condition matérielle. Notre corps va petit à petit se dégrader. Cette vie biochimique qui est en nous va progressivement se dérégler. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, les poisons de la vie vont finalement détruire ce corps. Mais notre vie spirituelle, qui est en Christ, elle sera révélée complètement au moment où Christ rendra manifeste ce que nous sommes déjà. Et là aussi, je me rappelle de ce que Samy nous disait il n'y a pas si longtemps sur une discussion qu'il avait avec sa belle-sœur, je crois, qui finalement méprisait son chemin parce qu'elle avait réussi à acquérir beaucoup de richesses sur cette terre et elle lui disait que finalement, lui, il n'arriverait jamais à ça. Donc, la gentillesse, tout ça, c'était beau, mais bon, ça restait quand même très secondaire. La richesse que nous accumulons maintenant, cette vie que nous recevons, trouvera sa pleine, manifestera sa pleine richesse au moment où le Christ le rendra réel. Alors je vais m'arrêter là en reprenant simplement la question de qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la vie pour moi ? La vie, c'est d'être plus jamais seul, d'être pour toujours en relation avec celui qui m'a créé, en relation avec celui qui me connaît et que je connaîtrai un jour aussi bien qu'il me connaît et qui me permettra aussi de vous connaître, là aussi comme il me connaît. La question de où est Jésus est fondamentale, c'est vrai, dans notre vie. La question de où je suis, est-ce que je suis dans cette relation, est-ce que je suis à cet endroit où la vie de Dieu coule en moi, où elle me traverse et où elle va vers les autres? Est-ce que je suis à cet endroit-là? Dieu me dit, Jésus me dit, demeurez en moi. Alors c'est vrai, où est Jésus dans ma vie? Mais aussi, où je suis? Est-ce que je suis en Christ? Est-ce que je suis dans cet endroit où la vie de Dieu se manifeste dans ce que je vis au jour le jour. Je vous laisse ces questions. Une fois de plus, elles vous aideront peut-être pas à mieux à être plus gentil avec votre femme ou votre mari en rentrant tout à l'heure, mais elle vous permettra peut-être de faire comme pour Marthe et Marie, hein, vous connaissez bien ce passage-là où Marthe était emportée par le quotidien et les choses à faire, même si elles étaient à faire pour le Seigneur, et où le Seigneur a dit, regarde, même si Marie n'est pas en train de t'aider à faire à manger, elle a pris la bonne part parce qu'elle s'est assise à mes pieds pour écouter ce que j'avais à lui dire et recevoir finalement la vie que j'avais à lui donner. Que le Seigneur vous bénisse.